France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France, c'est la dernière de la saison. Alors je vous propose de terminer en fanfare. Le succès des fanfares. Succès populaire dans les rues de France, succès au cinéma également avec le film d'Emmanuel Courcol En fanfare, plus de 3 millions d'entrées, 7 nominations au César et puis une montée du tapis rouge à Cannes. On en parlera avec deux des musiciens de l'harmonie municipale des mineurs de la Lain, commune du Nord qui a vécu donc un rêve éveillé. 15 jours après la fête de la musique, on va voir aussi que les fanfares ont la cote, qu'elles ne datent pas d'hier d'ailleurs, dès l'Antiquité, dans les formations militaires de la Légion romaine avec les trompes. Aujourd'hui, on a délaissé l'aspect militaire pour en faire un art populaire. La fanfare, dans le Nord notamment, c'est la musique ouverte aux mineurs. Bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Cette vocation sociale et politique des fanfares, ce sera le thème de votre billet.
Oui, une nation s'éteint quand elle ne réagit plus aux fanfares. La décadence et la mort de la trompette, signée du philosophe et écrivain Émile Cioran. Peut-on retrouver une harmonie dans les harmonies ? Retour en grâce des fanfares soutenues par le ministère de la Culture. On verra qu'elles ont même leur festival international à Mazamet, dans le Tarn.
Le cynisme de Cioran en plus. À tout à l'heure, Yael. Qu'on les appelle harmonie, bandas, brass band, batterie, fanfare ou tout simplement fanfare, comme par exemple la fanfare du Silex à Auxerre. Je la connais bien, cette fanfare. Il s'agit avant tout de fanfaronner. Et bien ce soir, fanfaronnons ensemble jusqu'à 19h.
Éric Delvaux. Le 18-20.
Avec un premier témoignage, une musicienne qui a vécu la folle aventure du film En fanfare. Bonsoir Chantal Viellard.
Bonsoir.
Avec votre mari Olivier Viellard, vous êtes à la direction musicale de cette harmonie municipale des mineurs de la Lain, dans le Nord, dans cette même harmonie qui joue dans le film, donc En fanfare. D'ailleurs, comment cette fanfare a-t-elle été choisie pour le film ?
Alors en fait, on avait fait déjà un tournage il y a 25 ans avec Frédéric Touchard, qui était venu nous suivre pendant un an et il a fait un documentaire donc sur l'harmonie de la Lain et sur d'autres harmonies dans la région. Et Emmanuel Courcol a pu visionner ce documentaire et il a eu un coup de cœur pour nous.
Et est-ce que vous savez pourquoi la vôtre en particulier ? J'ai bien compris qu'il y avait un documentaire au départ, mais après, vous avez apporté un répertoire, par exemple ?
Le répertoire, on l'a choisi avec Emmanuel, entre autres.
Emmanuel Courcol, le réalisateur.
Oui, c'est ça. Voilà.
Et une partie du tournage s'est faite à l'école de musique de la Lain. Les racines ch'tis, c'était très important pour le réalisateur du film ?
Oui. Après, on lui a demandé, quand on l'a rencontré, on avait un peu peur des clichés du Nord, en fait, que ce soit un film sur les clichés du Nord. Et il nous a rassurés complètement en disant non, pas du tout. Il nous a fait lire le scénario. Et il n'y avait aucun cliché, justement. Et ça nous a beaucoup rassurés.
Eh bien, dites-nous, quel cliché redoutiez-vous ? Cliché du Nord ?
Ben... un peu le parler ch'ti...
C'est aussi une fierté aujourd'hui d'être en fanfare. Elles étaient ringardes dans les années 60, les fanfares, elles sont devenues tendance. Le ch'ti, c'est un peu la même chose, non ?
Oui.
Donc il y a une fierté aussi.
Il y a une fierté, bien sûr. On aime toujours un peu parler ch'ti, c'est rigolo, évidemment.
Il y a un morceau dans ce film en fanfare qui est devenu un peu le tube de cette bande originale du film. Emmenez-moi Aznavour, Chantal Viellard à la direction musicale de cette harmonie municipale des mineurs de la Lain. C'était ce morceau dans le film, c'était déjà dans votre répertoire ?
Non, Pas du tout. En fait, il fallait qu'on trouve une chanson, hein, donc un peu avec Emmanuel Courcol. Et ça s'est fait un peu comme ça, en fait. On a un peu flashé tous sur le « Emmenez-moi ».
Alors, explique-nous comment cette fanfare a travaillé. Combien de temps avez-vous travaillé pour donner ce que l'on voit dans le film ?
On a travaillé 2 mois environ avant le tournage, les morceaux.
Pas plus ?
Non.
Et non. La caméra vous a effrayé ?
Un peu sur le début, oui.
Oui.
Ils nous ont énormément rassurés, en fait. Toute l'équipe était autour de nous et il y avait une très bonne ambiance. Et ils nous ont mis en confiance tout de suite.
Et puis, il faut nous raconter maintenant la cerise sur le gâteau. C'est votre montée des marches au Festival de Cannes, le tapis rouge. Comment est-ce que vous avez vécu ça ?
C'était une aventure formidable, même inimaginable. C'était une grosse surprise aussi, attendez pas du tout. Quand Emmanuel Courcol nous a appelé pour nous dire on va à Cannes, on a dit bah oui c'est bien, super, on était content, le film est promu en Cannes première, on était content, mais il dit non, on y va ensemble. Là on n'y croyait pas du tout.
Et le succès du film en fanfare, ça a changé quoi au final pour votre harmonie municipale ?
Beaucoup plus de demandes en fait pour faire des prestations, même un peu trop maintenant. On a été obligé de refuser quelques prestations parce qu'on n'était pas tout le temps disponible et on est tous amateurs en fait dans l'harmonie et donc on peut pas leur demander non plus. De faire des choses toutes les semaines, en fait, c'est pas possible.
Merci beaucoup, Chantal Vielard, co-directrice musicale donc de cette harmonie municipale des mineurs de l'Allain dans le Nord. On parlera dans un instant avec votre mari de l'importance des harmonies dans le Nord, justement. En attendant, eh bien voilà un autre exemple de fanfare. Nous partons à Bordeaux, sur les bords de la Garonne, pour la répétition hebdomadaire de la fanfare sauvage. Elle a été créée il y a 2 ans. La fanfare sauvage en marge et qui essuie le pas de la fanfare invisible. On va en reparler dans un instant avec vous, Yael Gauze. Une fanfare donc sauvage dans la Garonne qui accompagne régulièrement les marches contestataires lors des manifestations. Reportage signé Give Anctil.
Bonjour.
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 Enchanté.
Bonjour. Moi, c'est Lola et je joue de la caisse claire.
Bonjour. Et moi, c'est Baptiste. Je joue de la clarinette.
Bonjour. Oni et je joue de la flûte traversière.
Bonjour. Moi, c'est Baptiste et je fais de la caisse claire.
Elia, enchanté. De la flûte traversière.
Kylian, du saxophone baryton.
David, du saxophone alto.
Oscar, trombone à coulisses.
Et ben là, on a trouvé un endroit, donc on est sur les quais à Bordeaux. Et...
C'est bien, il y a un peu d'air là,
ouais.
C'est la Garonne juste à côté.
Ouais, on a trouvé l'ombre la plus dense qu'on pouvait. Puis on va commencer notre répétition de fanfare.
Alors, c'est la fanfare sauvage.
Fanfare sauvage, ouais, c'est ça. Donc fanfare militante qui existe depuis 2 ans, qui joue à Bordeaux et sur des manifs, sur des rassemblements, dans des squats. Enfin, voilà, toutes sortes de rassemblements militants qui nous semblent avoir du sens et qu'on a envie de soutenir.
Vous avez fait quoi par exemple comme mobilisation depuis 2 ans ?
Eh ben, pas mal. En fait, on est à la base une fanfare qui est plutôt issue du mouvement écolo. Donc, ça a été pas mal de manifs des soulèvements de la terre. Du côté de Castres, sur la lutte contre la 69, contre les bassines aussi. Voilà, on a joué contre un projet de LGV, la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Contre la loi Casbarian qui facilite l'expulsion aussi d'habitants précaires. Et après, on a fait une manif en soutien à la Palestine. Enfin voilà, donc toutes sortes de manifs, rassemblements.
En musique. Et là, c'est quoi le programme d'aujourd'hui ?
En fait, c'est que des morceaux qu'on joue déjà, mais qu'on a besoin de travailler, en tout cas. Et ça va durer entre 2 heures et 3 heures ou 4 heures, selon.
Ah oui ?
Selon que les gens soient motivés tard ou pas.
Ils sont en train de doucement s'échauffer et d'accorder leurs instruments. C'est quoi cet instrument, alors ?
Alors, cet instrument, on pourrait croire que c'est un piano. En vérité, c'est un mélodica, donc c'est un clavier, et on souffle dedans. En fait, j'ai vu le film en fanfare, ça m'a donné envie de faire de la fanfare.
C'est vrai ?
J'ai regardé ce qu'il y avait à Bordeaux, et je suis tombée sur la fanfare sauvage. C'est comme ça que j'ai trouvé, donc je me suis pointée un jour en répétition, et j'ai appris à connaître ces gens, et c'était chouette.
Moi, c'est Fleur, et je fais des percus.
Moi, c'est Lola.
Ça fait 1 an bientôt qu'on est dedans.
Ouais.
Mais pour faire de la musique ou pour faire des manifs ?
Les deux. C'est qu'on est là, on est présent,
dans la manif, mais on est aussi là pour ambiancer les gens, on joue. Enfin, ça nous permet aussi de jouer de la musique, parce que c'est, de base, c'est ça, c'est un groupe de potes qui joue de la musique et qui a décidé de créer une fanfare sauvage pour pouvoir jouer en manifestation. Et c'est parti de là, quoi. C'est vraiment l'amour de la musique et le monde du militantisme. Et pour moi, c'est une forme de lutte peut-être un peu plus accessible que juste marcher dans la rue et crier des slogans. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de plus festif dans le jeu de la musique. Bah ouais, c'est ça, c'est un renouveau, en fait. C'est une nouvelle manière de militer, plus festive. Et la musique, c'est un moyen pour nous de manifester autrement, quoi, justement.
C'est ça, c'est pas juste dire non, à bas ou assez.
Oui, c'est le dire en chantant. Ça fait du bien.
Abat l'état policier, abat l'état policier, abat l'état policier, abat l'état policier, abat l'état policier.
Et pendant que les uns et les autres commencent à chanter et à leur répétition avec un programme qui s'appelle Abat l'état policier, on voit au fur et à mesure d'autres participants de la fanfare sauvage qui arrivent doucement les uns après les autres au bord de la Garonne, sous cet arbre où ils sont installés en fin de journée. Je vais l'embêter de baryton pendant qu'il est là. Et il faut que je vienne vous parler parce que quand même vous êtes celui qui est le plus mis à contribution pour une fanfare de manif, parce que c'est un baryton et que ça pèse je sais pas combien de kilos, un saxophone baryton.
Ça pèse 13 kilos. Du coup voilà, c'est moi qui ai pris des parties de basse il y a pas longtemps. J'ai croisé la fanfare une fois dans la rue, j'avais mon instrument sur les épaules.
Par hasard ?
Par hasard, totalement, ouais. Et puis ils ont été super accueillants.
Parce que vous, vous faites du saxophone par ailleurs ?
Moi j'en fais mes études. Je suis en musicologie.
Mais alors là, du coup, c'est pas du tout le même répertoire qu'au conservatoire. Quand on fait des études de musicologie, ça fait pas trop mal aux oreilles, les fausses notes et les couacs en fanfare.
Bah, ça fait du bien, en fait. Et non, puis ça fait vraiment partie de la musique, les fausses notes. Et le fait, c'est pas très juste aussi, c'est...
Le Che Guevara qu'on entend derrière, oui, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a un petit quart de ton ou un demi-ton.
Voilà, c'est pas juste, mais bon, c'est pas grave. Hein. Non, c'est l'état d'esprit qui est important.
Moi je m'appelle Kai Prosper McGregor, je suis prof d'anglais, je joue de la trompette depuis que j'ai 12 ans. Et là, je suis tombé sur une bande de plutôt des jeunes en fait, je suis plutôt parmi les plus vieux.
Ouais, ça parce que faut le dire pour la radio, vous êtes les seuls avec les cheveux poivre et sel.
Ah, c'est clair, c'est clair. D'abord ça me fait du bien parce que j'ai quand même 53 ans et de voir qu'il y a des gens qui ont 20, 30, ça me donne plein d'espoir pour continuer à lutter, justement de relever la tête et de se dire ben non, ça vaut le coup, je vais quand même aller faire grève, je vais quand même aller marcher dans la rue, c'est de la vraie vie quoi, de la vraie vie collective. Voilà, ça part sur Rastafunk.
C'est ça le morceau là.
Ouais, on doit beaucoup à la fanfare invisible, nous. On copie à fond.
Et voilà, ça y est, c'est parti. Je vous laisse les rejoindre.
Voilà donc pour cette fanfare sauvage sur les bords de la Garonne. Reportage signé Guy Vanctil. Guy Vanctil, à qui je claque une bise toute particulière. C'était ce soir son dernier reportage sur France Inter. Merci beaucoup Guy pour tous ces beaux reportages. Bosser avec toi a toujours été un plaisir. La suite d'une semaine en France, on va retourner à Lalin dans le Nord, commune de 6000 habitants dans l'arrondissement de Douai, avec donc son harmonie municipale des mineurs qui a tourné dans le film En fanfare. Nous sommes en ligne avec l'autre co-directeur musical de cette harmonie. Bonsoir Olivier Viellard.
Bonsoir.
Je vais reprendre les termes. Hein. Harmonie municipale des mineurs de Lalin. Chaque mot est important. Qu'est-ce qui définit cet orchestre ambulant ?
Alors, c'est pas qu'un orchestre ambulant, puisque c'est aussi une harmonie qui joue un programme aussi de concert dans une salle de concert, mais qui a aussi dans son répertoire des morceaux de défilé, de carnaval. Et donc, qu'est-ce qui nous définit ? Ben, c'est un peu cette histoire qui est inclue dans notre appellation. harmonie des mineurs de des mineurs, pardon, et on vient, l'harmonie est une vieille dame, une vieille association de plus de 150 ans, issue du milieu ouvrier, du milieu des mineurs, puisque nous sommes à tout près de Douai, dans un bassin autrefois très très minier, et il y avait une mine aussi, un dépuis de mine à Lalin, et beaucoup de gens venus pour travailler sous terre, et c'est de là qu'est un peu partie l'histoire de la mine, de l'harmonie de Lalin et des harmonies aussi de tout le nord de la France.
Oui, c'est même une tradition dans le nord. Il y a les terrils et les fanfares ou les harmonies. Elles vont souvent de pair.
Oui, je pense qu'elles vont de pair. Elles ont été beaucoup influencées, aidées par les communes, par les houillères qui trouvaient un moyen de d'occuper le mineur à la sortie de la mine, ou aussi de lui donner bonne conscience aussi en soufflant dans un instrument. Ça permet aussi de se décrasser les poumons. Donc c'était un beau, et puis c'était un beau faire-valoir lorsque les harmonies le dimanche se produisaient, ou même s'affrontaient dans des concours fraternels, mais des concours quand même.
Vous êtes en train de nous dire que la fanfare, les harmonies finalement dans le nord, et Bandas dans le sud ou ailleurs, c'est un art populaire par excellence.
C'est exactement ça. C'est un art populaire. C'est un art aussi où c'est un moment aussi pour les musiciens où on se retrouve ensemble après la journée de travail. C'est encore le cas dans notre harmonie. Il y a aussi toutes catégories sociales qui se retrouvent une fois par semaine pendant 2 heures et peut-être un peu plus pour la troisième mi-temps, à parler, refaire le monde, jouer de la musique avec sérieux. Mais tout ça dans un esprit camaraderie et de bien-être.
Et de bien-être, c'est bien ça l'esprit. Merci beaucoup Olivier Vielard, co-directeur musical donc de cette harmonie municipale des mineurs de Lalin. Une quarantaine de musiciens. D'ailleurs, quand est-ce qu'est prévu votre prochaine prestation? On va en faire la promotion. On va pouvoir vous voir et vous écouter où et quand?
On va nous entendre à la rentrée, au mois de septembre. On aura plusieurs prestations dans tout près de chez nous. On fera l'ouverture de la foire à l'ail à Arleux, une grande fête qui est très connue dans le nord de la France.
Et après,
on nous y retrouvera peut-être aussi au championnat du monde de la frite à Arras.
Eh bien, pourquoi pas. Merci beaucoup, Olivier Vielard. Merci beaucoup et bonne soirée.
Il nous reste du temps pour parler. Il nous reste devant, du temps pour réparer. Est-ce qu'on va essayer? Est-ce qu'on peut y arriver? Il nous reste devant, encore un long parcours. Il nous reste du temps avant de faire le tour. L'amour et ses nuances, ses éclairs, sa patience. 6 mois, 1 an, ou peut-être quelques heures. Laisse-moi du temps pour nous emmener ailleurs. Laisse-moi du temps pour devenir meilleur. Il nous reste la nuit, des refrains, des mélodies, encore quelques envies, des étés, des trains partis, avant de tout jeter par terre. Laisse-moi du temps pour mieux faire. 6 mois, 1 an, ou peut-être quelques heures. Laisse-moi du temps pour nous emmener ailleurs. Devenir meilleur. 6 mois, 1 an, ou peut-être quelques heures. Laisse-moi du temps pour nous emmener ailleurs. Laisse-moi du temps pour devenir meilleur. reste le soir. La fatigue au coin des yeux, cet air un peu hagard, mais toujours ce point lumineux. En amour on marche sur du verre. Laisse-moi du temps pour mieux faire. 6 mois, 1 an, ou peut-être quelques heures. Laisse-moi du temps pour nous emmener ailleurs.
Devenir meilleur, c'était Ours, la programmation musicale de Djoubaka. Une semaine en France, c'est aussi une équipe, Juliette Gou à la réalisation, Frédéric Barrère, rédacteur en chef. Merci à Joachim Taïeb et Simon Body qui m'ont aidé à préparer ce 18-20.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France consacrée ce soir aux fanfares, ces musiciens amateurs qui déambulent les beaux jours revenus. On en parle à présent avec vous, Fabrice Raffin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et vos tribunes éclairent régulièrement les arts populaires. Je posais la question tout à l'heure aux musiciens, je vous la pose aussi. En quoi les harmonies et autres fanfares sont-elles des exemples vivants d'art populaire?
Alors, est-ce qu'elles sont populaires? Déjà, le sociologue est embêté avec cette question.
Pourquoi?
Parce que le populaire, c'est très difficile à définir. Alors on peut dire que si on considère que dans la hiérarchie musicale, la musique savante, la musique classique est au top, bah, tout est populaire parce que les auditeurs de musique classique font à peine 4% de la population.
Je mettais populaire en opposition à élite.
Oui, bah cette élite, elle a 61 ans de moyenne d'âge et vous voyez, donc le reste, elle est populaire dans le sens où elle est fondée, ça a été dit tout à l'heure, sur le plaisir. Hein, sur le plaisir beaucoup plus que sur ce qui est la caractéristique des cultures bourgeoises, hein, au sens vraiment historique du terme, qui est finalement de s'interroger sur le monde, de s'interroger sur la vérité, des choses comme ça, très, très sérieuses finalement. Alors que là, on est dans un plaisir simple, hédoniste. Le plaisir, ça a été dit, d'être ensemble, de faire la fête.
C'est donc dans les fanfares, dans les villes et dans les villages, les fanfares, ce serait une appropriation de la culture par le peuple, pour le peuple.
Et c'est exactement l'histoire des fanfares, en fait, puisque le 19e siècle, c'est une tentative, par le haut, d'imposer la musique classique. Alors, je le dis de manière lapidaire, mais oui, c'est quand même ça, l'idée. Alors, c'est une idée très généreuse. C'est une idée qui irrigue toujours les politiques culturelles françaises. Mais dans les faits, c'est quand même une politique descendante qui dit ce qui doit être écouté, comment ça doit être écouté. Alors, généreuse, parce qu'il y a une volonté d'émancipation du peuple, hein, dans cette volonté descendante. Donc, des musiciens, Willem, Le Sueur, vont traduire la musique classique, c'est la musique savante, pour les fanfares.
Le jouer ensemble est plus important que le jouer bien. On entendait dans le reportage tout à l'heure quelqu'un qui disait « c'est pas toujours juste, mais c'est pas bien grave ». C'est ça l'esprit?
Oui, et c'est ce qui différencie aussi beaucoup des musiques savantes qui vont être très sur la précision. Voilà. Et alors que là, on va être sur comme un prétexte, la musique comme un prétexte pour prendre du plaisir. C'est beaucoup plus ça la finalité. Je les appelle très souvent des musiques dionysiaques, par opposition aux musiques bourgeoises apolliniennes qui sont beaucoup plus dans la retenue, dans la distanciation. Là, on est, ça a été dit, on participe.
Je le disais en préambule, la fanfare a d'abord été militaire. À partir de quand a-t-elle délaissé les terrains de guerre pour rentrer dans les places de village?
Alors, question historique assez difficile à préciser, mais au début, première moitié du 19e siècle, hein, où les militaires vont aller jouer dans les kiosques, déjà vont traduire. Et il faut se remettre à l'époque, c'est Philippe Gumplowicz qui dit ça, à cette époque, il n'y a de la musique nulle part. Donc quand une fanfare se met dans l'espace public, c'est un événement monumental, quoi. Donc là, d'où le mythe un petit peu du lien social, du faire société autour de ces musiques. Parce que, évidemment, tout le monde s'approche, tout le monde se presse au concert.
Les fanfares et avant elles, les chœurs, le chœur des hommes, ce qu'on appelait l'Orphéon, c'était pour créer une nation musicienne. Dans quel but?
Eh bien, on est au sortir de la Révolution française. La nation, le pays est très divisé. Hein, on est en guerre. Donc la division nationale est vraiment entre la Restauration et toutes les révolutions qu'il va y avoir en cours. Là, on utilise la musique pour essayer de recréer ce lien, de faire nation. Donc on est dans début des politiques culturelles, une instrumentalisation de la musique. C'est un mot assez étrange, quoi. Une association étrange, mais on instrumentalise la musique pour rassembler le peuple, hein, le peuple, et l'éduquer aussi. Hein. Il y a cette volonté d'émancipation.
Vous dites, on veut faire nation, on veut faire surtout région. On l'a vu dans le Nord, dans le Sud-Ouest, c'est Banda, c'est ailleurs, ce sera... Ça fait région plus que nation.
Alors, moi, je pense que cette notion de régionalisme associée à ces fanfares, elle est récente, en fait. Elle est récente. À un moment, il y a un moment de bascule où cette imposition par le haut des musiques savantes, eh ben, elle est détournée. Hein. Chacun commence à avoir des instruments, à faire ses fanfares, et puis on va faire de la musique au-delà de ce qui est imposé par le haut. Donc là, chaque région va inventer ses... Alors, il y a des éléments de contexte, mais chaque région va reprendre ses fanfares à son compte pour faire sa propre musique et créer sa propre identité. Il y a une dimension dans les bandas, vous l'exprimez, identitaire très forte dans ces fanfares.
Dans le Nord, on en a parlé tout à l'heure avec les musiciens de l'harmonie de l'Alain. Le Nord et les mineurs sont montés aussi pour faire de la musique, sortis des houillères pour aller faire de la musique un peu.
Alors... Ils sont sortis, on les a sortis. Là, il faut se mettre dans le contexte.
C'était paternaliste.
Il y a ce côté paternaliste qu'on alors éduqué. La question sanitaire, ça a été essoufflé. Bon, éduqué ou contrôlé. Donc là, on ne sait pas trop. Mais il faut savoir aussi que c'était un privilège de sortir du fond. C'était un privilège pour ceux qui avaient parce qu'il y avait les répétitions. On n'était pas obligé de redescendre tous les jours. Voilà. Et puis ça a été dit tout à l'heure. Le fait d'être en public, d'être mis en valeur publiquement, c'était quand même quelque chose.
Fabrice Raffin. Enfin, vous restez avec nous, on a encore quelques questions à vous poser. Je vais me tourner vers Yaël Gauz pour votre prisme politique. On va voir avec vous que les fanfares ne sont plus considérées comme une culture ou une musique de second plan, bien au contraire.
On ne reviendra sans doute jamais à l'étiage de la 3e République, fin 19e, on en parlait à l'instant, quand 500 000 Français à l'époque jouaient dans une fanfare ou une harmonie municipale. Mais on est en phase de rattrapage. Qui aurait imaginé il y a encore 10 ou 15 ans qu'un plan fanfare, appelé comme ça, verrait le jour, rue de Valois, au ministère de la Culture, lancé en 2021. Ce plan, plus de 3 millions d'euros versés en 3 ans pour subventionner les formations musicales. Une image symbolise, à mon sens, cette réconciliation culturelle. C'était pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Et oui, Aya Nakamura accompagnée par la garde républicaine. Il y a presque un an, moment suspendu sur le Pont des Arts. Derrière ces fanfares, un projet qui est aussi politique. Remettre en avant les cultures populaires, la fierté des territoires, pousser les traditions locales, rurales. La ministre Rachida Dati était en déplacement le 13 mars dernier à Tallard, dans les Hautes-Alpes.
Alors moi, je suis heureuse de vous annoncer que je souhaite aller plus loin et que le plan fanfare va s'élargir à d'autres pratiques et usages des cultures populaires, notamment... Retenez bien, les musiques, danses traditionnelles, chants chorales, polyphoniques. Ces danses et traditions populaires sont les angles morts de notre politique culturelle. Donc désormais, elles en font partie. Donc bienvenue.
Voilà, bienvenue, dit Rachida Dati, les fanfares soutenues par les pouvoirs publics. Il faut dire aussi, Yael, que les fanfares, ce sont aussi parfois, on l'a évoqué dans le reportage, des musiciens qui protestent.
Des musiciens très libres et qui battent le pavé tout en jouant de la musique, sorte de bande-son des manifs. C'est ce que fait la fanfare Invisible, née en 2009 et qui répète toutes les semaines à Montreuil. Remontez le fil des photos des plus grands mouvements sociaux de ces dernières années et vous verrez dépasser un tuba ou un hautbois catalan. 21 novembre 2020, concert sauvage, place du Trocadéro à Paris, contre la loi de sécurité globale. Fanfare qui a trouvé son inspiration de l'autre côté des Alpes, comme l'explique Marc, tromboniste.
Moi, j'avais été inspiré dans les années 2000 par un mouvement italien qui s'appelait les Tutti Bianchi. Ils étaient habillés tout en blanc, avec des bouées. Ils allaient au contact de la police, dans des luttes qui avaient aussi pour objet de mettre en lumière les personnes qui étaient invisibilisées. Les pauvres, les précaires, les sans-dents.
Et vous partagez les mêmes idées politiques ?
Mais nous, on a une chance, c'est que la musique nous réunit. Dans la fanfare, on joue des morceaux palestiniens et des morceaux pour montrer notre attachement contre tous les colonialismes.
ou comment concilier musique et engagement. Extrait de l'excellent podcast Fanfare, une histoire en marche, réalisé pour France Culture et la série documentaire par Jérôme Sandlars.
Voilà, vous parliez de la fanfare invisible, Yael. Il y a aussi des fanfares de plus en plus visibles, oui, et qui sont même mises à l'honneur dans des festivals qui leur sont dédiés.
Oui, musique classique au festival Berlioz à la Côte-Saint-André en Isère du 21 au 31 août prochain. Mais il y a aussi une partie off, gratuite, sous la halle médiévale pour écouter des harmonies, des cuivres et autres brass bands. Un festival 100% fanfare, celui-là, dans le Win comme dans le Off. Ça, c'est Mazamet, 10 000 habitants dans le sud du Tarn, à mi-chemin entre Toulouse et Béziers. Mazamet, 30e édition de Fanfare sans frontières la semaine prochaine. Ça commence mercredi. La particularité, donc, c'est qu'on y croise des fanfares venus de partout, de Colombie, de Pologne, du Mexique, d'Irlande, de Norvège, d'Espagne. Près de 300 musiciens en tout, accueillis par Christophe Cornier, le président du festival.
Toutes ces personnes discutent entre elles, font la fête entre elles. Ils ont tous un uniforme, ils ont tous une tenue, mais après, il y a quand même une certaine fraternité qui s'installe, et surtout, on veut maintenir un festival dans le festival, c'est-à-dire que les groupes mangent ensemble, font la fête ensemble, pas de frontières, et surtout, quand on fait un final commun à la fin du festival, tout le monde joue la même partition.
À Mazamet, il est arrivé que les tambours de Saint-Pétersbourg croisent une harmonie ukrainienne, mais ça, c'était avant la guerre, avant 2022. La musique adoucit les mœurs, mais elle ne peut pas tout. La diplomatie non plus.
Hélas. Merci beaucoup, Yael Gauss, pour ce prisme politique. Je reviens vers vous, Fabrice Raffin. Je rappelle que vous êtes sociologue. Les fanfares, elles ont eu des hauts et des bas. Dans les années 60, elles étaient ringardes. Pourquoi, d'ailleurs, est-ce qu'on les trouvait ringardes dans les années 60?
Alors ça, peut-être que le développement des industries culturelles, justement, le top 50, tout ça, a donné un côté un petit peu
top
ringard.
Top 50, c'est années 80, hein, on est 20 ans après.
Oui, là. Mais enfin, voilà, c'était une musique...
Il y a musique
plus...
yéyé.
Et puis, c'était une musique pas amplifié aussi, donc il y a cet aspect musicologique, peut-être, hein, moi je n'ai que des hypothèses.
D'ailleurs, on voit de plus en plus dans les fanfares, vous parliez de musique amplifiée, des joueurs de basse qui ont l'ampli sur roulette. C'est pas un peu dénaturé, là,
ah, ça, il y a débat là-dessus, c'est-à-dire que parmi les musiciens, il y a des chapelles. C'est-à-dire
Parce qu'au départ, il faut rappeler, les fanfares ce sont des instruments de cuivre où l'on peut déambuler.
Exactement, c'est le principe, c'est-à-dire qu'on est libre d'aller vers le public, d'amener le public avec soi aussi, c'est ça un des éléments forts de ce rassemblement populaire.
Mais je vais vous poser la question à l'envers peut-être. À l'heure des musiques téléchargées et des plateformes musicales, pourquoi les fanfares sont-elles devenues tendance aujourd'hui ?
Alors, ce ne sont que des hypothèses, mais peut-être qu'il faut chercher la réponse ailleurs. C'est-à-dire que la fanfare, c'est l'occupation de la ville. La fanfare, c'est se retrouver dans l'espace public à un moment donné où l'espace public est très quadrillé par les aménageurs, la police, etc. Là, on s'empare de l'espace public et ça fait société d'une autre manière. Et peut-être que les réseaux sociaux, derrière son écran, la musique derrière son écran, ça n'a pas la même valeur que cette pratique collective, quoi.
Quelle différence, on va l'expliquer aux auditeurs peut-être, faites-vous entre fanfare, harmonie, brass band ou bandas, alors que chacune de ces formations a la même vocation, hein, c'est de partager la musique populaire.
Oui, ça a été dit dans l'entretien tout à l'heure, c'est-à-dire que les harmonies peuvent jouer en salle, hein, alors que les fanfares, on considère qu'elles sont plutôt dans le déplacement. Ensuite, sur brass band, tout ça,
brass band, c'est jazz,
oui,
c'est
on est
répertoire
plus,
qui influe aussi.
C'est ça, c'est plus des influences de styles musicaux.
Entre les jeunes et les anciens, les CSP+, ou CSP- qui jouent amateurs dans les fanfares, est-ce que le sociologue que vous êtes a regardé de près la composition sociale des musiciens amateurs ?
Et oui, alors là, c'est là que le terme de populaire est un peu difficile. C'est-à-dire que il y a des variables comme ça qui sont le rural, l'urbain. Les fanfares urbaines sont très souvent des fanfares d'ingénieurs, d'écoles, étudiants d'école des beaux-arts. Les fanfares qui ont été évoquées tout à l'heure, militantes, on l'a dit, des militants écologistes qui ont souvent un parcours, alors musicologie, oui, universitaire, des choses comme ça. Donc là, on est sur des styles musicaux, des positionnements qui vont aussi de pair avec des compositions sociales.
Eh bien merci, merci beaucoup Fabrice Raffin, merci d'être venu nous parler des fanfares et des orchestres déambulants qui reviennent surtout l'été à la faveur du beau temps. In the summertime justement, comme le chantait Mongo Jerry, c'était en 1970, et ça pourrait d'ailleurs faire une bonne partie de fanfare ce morceau.
Turn on return.
In the Summertime, cette saison, Mango Jerry en 1970. Vous écoutez Une Semaine en France, à la technique ce soir, Florian Dorimini, Élise Christophe et Fabrice Desmaz.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
L'actualité d'ici et d'ailleurs, à présent, l'actualité en région avec le concours des radios du réseau ICI. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ICI Normandie-Rouen, ICI Berry, ICI Alsace, Raphaël Tual, Gaël Fontenay, Mocha Chaya. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
À Évreux, Raphaël Tual, les obsèques aujourd'hui d'un jeune agent de la direction des routes.
Oui, les obsèques de Kylian Saug ont eu lieu à 15h tout à l'heure à Évreux. Le drame se produit mardi de la semaine dernière. Ce jeune patrouilleur de 24 ans porte assistance à une voiture en panne entre Évreux et Louviers quand il se fait percuter par une camionnette. Pour les 600 agents sur les 11 départements que gère la direction des routes Nord-Ouest, la mort de Kylian a été un vrai choc. D'autant que la veille du drame était lancée une campagne de sensibilisation pour la protection des agents des routes.
Mais parce que ces accidents dramatiques ne sont pas rares, Raphaël.
Ben, pas une semaine ne se passe sans qu'un véhicule de la direction des routes du Nord-Ouest ne soit percuté. Chaque année en France, en moyenne, ce sont 130 accidents, mortels ou non. Et début juillet, on a déjà atteint ce chiffre. En cause, toutes les distractions comme le téléphone, le navigateur GPS. Et sur ICI Normandie, le directeur de la direction des routes, Pascal Gabet, pointer un comportement encore plus dingue pour reprendre son terme, regarder des films en conduisant. Et ils sont nombreux à le faire selon lui. En Normandie, les vacances commencent ce soir. Alors c'est l'occasion de faire ce rappel, faites attention aux gilets orange au bord des routes cet été.
Et appel à la vigilance sur les routes, donc, sur les routes de France. En ce premier week-end de départ des vacances d'été, c'était Raphaël Tual, ICI Normandie-Rouen. On va parler du Tour de France à présent. Vous l'avez entendu dans le journal de 18h, le départ va être donné demain à Lille. Et bien dans l'Indre, Gaël Fontenay, la caravane fera étape le 13 juillet. Et ça se prépare dès maintenant.
Bah oui, chez nous, c'est une véritable fête parce que nous, on l'a peu eu, le Tour de France. Ça sera seulement la 7e fois qu'il fait étape chez nous. Les trois dernières, en 2008, en 2011 et en 2021, c'est un seul et même coureur qui s'est imposé, c'est Mark Cavendish. Il a tellement marqué chez nous à Châteauroux que Châteauroux a inauguré cette semaine 17 nouveaux panneaux d'entrée de ville, Cavendish City. Et pour l'occasion, le maire et le président du conseil départemental ont reconnu l'épreuve, en tout cas les 5 derniers kilomètres, en vélo électrique, parce que c'est quand même moins fatigant. Le maire de Châteauroux, éphémère ministre des Sports, hein, Gilles Averrouze, qui a dans l'idée même de donner le nom du coureur britannique à l'avenue qui servira de sprint final dans 10 jours.
Châteauroux, donc, ville arrivée d'étape. Mais c'est finalement tout le département qui est mobilisé.
Dans les communes traversées, là, on s'active. À Saint-Lactancin, on organise un quiz pour faire patienter les spectateurs. En Braine, au milieu des 3000 étangs, les pompiers ont prévu de grandes fresques. À Chézel, les enfants de l'école ont décoré les vélos pour une installation qui sera visible depuis l'hélico du Tour. Et puis, juste avant l'arrivée à Châteauroux, on a notre équipe de majorettes au masculin qui va faire le show. Ce sera leur dernière parce que le club se dissout juste après. À cause de l'âge des participants, ils commencent à peiner un peu à lever la jambe. Donc, ce sera finalement leur dernier tour de piste.
Gaël Fontenay, ici Berry. On va terminer en Alsace, Mochaya, avec cette histoire de pan qui finalement casse les oreilles.
Oui, il n'y a pas que la canicule qui empêche de dormir les habitants de Dettwiller, village de 2500 habitants au nord de Strasbourg. En ce moment, ils sont réveillés toutes les nuits par des cris stridents poussés par un pan qui s'est en fait échappé de chez son propriétaire. Des cris poussés, il faut l'imaginer, toutes les 5 minutes entre 2 et 5 heures du matin. Alors au début, l'histoire faisait plutôt sourire, ce bel oiseau qui se promène, mais cela fait maintenant plus d'un mois et personne n'arrive à l'attraper. L'animal s'envole à chaque fois que quelqu'un l'approche. On l'a vu dans la cour de l'école, sur le toit de l'ancienne synagogue, dans des jardins. À chaque fois, la mairie appelle les gendarmes, mais trop tard, à peine arrivé, le pan s'est déjà volatilisé. Un piège a même été installé, mais le pan court toujours, au grand dam des habitants qui n'en peuvent plus d'être réveillés chaque nuit. C'est tout le village qui se mobilise à la recherche du pan perdu, sans succès pour le moment. La mairie, qui a fait appel à des associations comme la SPA, assure en tout cas tout faire pour capturer l'animal vivant.
Eh bien, merci à tous les trois. L'actualité d'ici et d'ailleurs avec l'indispensable concours des journalistes du réseau ICI. Dans un instant, le journal de 19h d'Hélène Filly. Et puis à partir de 19h20, dans le téléphone sonne, on va parler de notre permis de conduire. Faut-il en finir avec le permis à vie compte tenu des accidents mortels qui ont impliqué récemment des conducteurs d'un certain âge? Faites-nous part de vos témoignages, vos questions 01 45 24 7000.